OK, on va commencer notre 23e leçon dans notre série Le péché, les 10 commandements, la grâce. Aujourd'hui, on va voir le troisième commandement de Dieu, ce qui est défendu. Alors, dans le premier commandement de Dieu, on avait vu qui nous devons adorer. Dans le deuxième, c'était surtout l'emphase sur comment nous devons adorer. Dans le troisième commandement de Dieu, c'est que nous devons craindre Dieu. Ça dit dans Exode chapitre 20, verset 7, « Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. » Donc, dans le troisième commandement de Dieu, ce qui est défendu, on commence toujours, on y voit toujours de la même façon, ce qui est commandé, première partie, ce qui est défendu. Donc, on finit le troisième commandement aujourd'hui. Alors, ce qui est défendu. Dans notre leçon précédente, nous avions étudié nos devoirs envers les noms, les titres, les attributs, les ordonnances, la parole de Dieu et les œuvres de Dieu. Voici ce qui est défendu par le troisième commandement. Premièrement, l'utilisation irrévérencieuse de ces choses. Malachie, chapitre 2, verset 2. « Si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom, dit l'Éternel des armées, j'enverrai parmi vous la malédiction et je maudirai vos bénédictions. Oui, je les maudirai, parce que vous ne l'avez pas eu à cœur. » Donc, l'utilisation irrévérencieuse de toutes les choses qu'on a nommées tantôt. L'utilisation aussi abusive de ces choses, soit par ignorance dans Acte 17, 23, car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription à un Dieu inconnu. Ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Proverbe chapitre 30, verset 9. Donc, il peut y avoir des utilisations qui sont circonstancielles. Ça dit de peur que dans l'abondance, je ne te renie et ne dise qui est l'Éternel ou que dans la pauvreté, je ne dérobe et ne m'attaque au nom de Dieu. Autrement dit, circonstanciel, ça veut dire que dépendamment de nos circonstances, on peut être porté à utiliser le nom de Dieu en vain ou douter de ses attributs ou des choses comme ça. Et Malachie 1, versets 6, 7 et 12, donc la profanation. Un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées, à vous, sacrificateurs, qui méprisez mon nom. Et qui dites, en quoi avons-nous méprisé ton nom? Vous offrez sur mon autel des aliments impurs et vous dites, en quoi t'avons-nous profané? C'est en disant, la table de l'Éternel est méprisable. Mais vous, vous le profanez en disant « La table de l'Éternel est souillée et ce qu'elle rapporte est un aliment méprisable. » Troisième manquement au troisième commandement, la superstition. Alors, on pourrait la définir comme étant une forme élémentaire et particulière des sentiments religieux consistant dans la croyance à des présages tirés d'événements matériels fortuits. Par exemple, une salière renversée, le nombre 13, un chat noir, un éternuement. C'est aussi la croyance à des influences surnaturelles qui sont lisibles comme des présages dans les gestes anodins de la vie quotidienne. On vit dans une société où il y en a énormément. 1 Samuel, chapitre 4, versets 3 à 5 et verset 10. Le peuple rentra au camp et les anciens d'Israël dirent « Pourquoi l'Éternel nous a-t-il laissé battre aujourd'hui par les Philistins? » Allons chercher à Silo, l'arche de l'Alliance de l'Éternel, qu'elle vienne au milieu de nous et qu'elle nous délivre de la main de nos ennemis. Le peuple envoya Silo, d'où l'on apporta l'arche de l'Alliance de l'Éternel des armées qui siègent entre les chérubins. Les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, lorsque l'arche de l'Alliance de l'Éternel entra dans le camp, tout Israël poussa de grands cris de joie et la terre fut ébranlée. On s'en va au verset 10, c'est-à-dire les Philistins livrèrent bataille et Israël furent battus. Chacun s'enfuit dans sa tente. La défaite fut très grande. Il tomba d'Israël, 30 000 hommes de pied étaient là avec l'arche de l'Alliance de l'Éternel. Qu'est-ce que ça démontre? C'était de la superstition. Si l'arche est là, on gagne. Si l'arche n'est pas là, c'est pas ça que Dieu dit. Si tu m'obéis, là tu vas gagner. Alors c'était comme une forme de superstition. Alors, si l'arche de Dieu est là, ils ont été défaits, 20 000 hommes qui ont été battus. Alors, ça nous montre qu'on est porté à ça. Hein. Deutéronome chapitre 18, versets 9 à 14, « Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement consacré à l'Éternel, ton Dieu, car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues et les devins, mais à toi, l'Éternel, ton Dieu, ne le permet pas. » Alors, ces superstitions-là peuvent revêtir des formes anodines au point qu'il est parfois difficile de les reconnaître, comme par exemple, de la pluie un jour de noces, c'est un signe de fortune. Des ciseaux qui plantent en tombant, un signe d'une visite. Un chat noir croisé sur la route, un signe de malheur. Un araignée du soir, un signe d'espoir. Briser un miroir, les signes de malheur. Et là, il y a des livres complets qui ont été écrits là-dessus. Il y en a tellement. Les grands sportifs sont particulièrement superstitieux. Alors, prêter un sens à ces choses-là, c'est déjà se mettre sous le jugement divin, car Dieu a ces choses en horreur. Le blasphème, 2 Rois, chapitre 18, versets 31-35, « N'écoutez point Ézéchias, car ainsi parle le roi d'Assyrie. Faites la paix avec moi, rendez-vous à moi, et chacun de vous mangera de sa vigne et de son figuier, chacun boira de l'eau de sa citerne. » Jusqu'à ce que je vienne et que je vous emmène dans un pays comme le vôtre, dans un pays de blé et de vin, un pays de pain et de vigne, un pays d'oliviers à l'huile et à miel, et vous vivrez et vous ne mourrez point. N'écoutez donc point Ézéchias, car il pourrait vous séduire en disant « L'Éternel nous délivrera ». Les dieux des nations ont-ils délivré chacun son pays de la main du roi d'Assyrie? Où sont les dieux de Hamat et d'Arpad? Où sont les dieux de Sepharvaim, d'Ena et d'Iva? Ont-ils délivré Samarie de ma main? Parmi tous les dieux de ces pays-là, quels sont ceux-là qui ont délivré leur pays de ma main pour que l'Éternel délivre Jérusalem de ma main? » Donc, il y a aussi le parjure, Zacharie chapitre 5, versets 3 et 4, « Et il me dit, c'est la malédiction qui se répand sur tout le pays, car selon elle, tout voleur sera chassé d'ici. » Et selon elle, tout parjure sera chassé d'ici. Je la répands, dit l'Éternel des armées, afin qu'elle entre dans la maison du voleur et de celui qui jure faussement par mon nom, en mon nom, afin qu'elle s'y établisse sa demeure et qu'elle la consume avec le bois et la pierre. On parle du parjure comme étant, autrement dit, tu t'assires un jugement de Dieu. La violation des vœux et des serments, Matthieu chapitre 5, versets 34 à 37. Mais moi, je vous dis de ne jurer aucunement, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul cheveu. Que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Deutéronome 23, versets 21-23. Si tu fais un vœu à l'Éternel, ton Dieu, tu ne tarderas point à l'accomplir, car l'Éternel, ton Dieu, t'en demanderait compte et tu te chargerais d'un péché. Si tu t'abstiens de faire un vœu, tu ne commettras pas un péché. Mais tu observeras et tu accompliras ce qui sortira de tes lèvres, par conséquent les vœux que tu feras volontairement à l'Éternel, ton Dieu, et que ta bouche aura prononcé. La mauvaise utilisation des décrets de Dieu. Romains 9, versets 14, 19 et 21. Donc le murmure. « Que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Loin de là, tu me diras, pourquoi blâme-t-il encore? Car qui est-ce qui résiste à sa volonté? Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'usage vil? » Deutéronome, chapitre 29, verset 29, nous parle aussi de curiosité malsaine dans les choses spirituelles. Les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu, les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Aussi, l'application abusive de certains passages, Romains, chapitre 3, verset 5 à 8, Mais si notre injustice établit la justice de Dieu, que dirons-nous donc? Dieu est-il injuste quand il déchaîne sa colère? Je parle à la manière des hommes. Loin de là, autrement, comment Dieu jugerait-il le monde? Et si par mon mensonge, la vérité de Dieu éclate davantage pour sa gloire, pourquoi suis-je moi-même encore jugé comme pécheur? Et pourquoi ne ferions-nous pas le mal afin qu'il en arrive du bien, comme quelques-uns qui nous calomnient prétendent que nous le disons? La condamnation de ces gens est juste. Le mauvais accueil des providences de Dieu, ça je pense qu'on le fait tous un peu à notre manière, Ecclésias 8, verset 11. Donc ça se manifeste dans le mécontentement qu'il peut y avoir dans nos vies, parce qu'une sentence contre les mauvaises actions ne s'exécute pas promptement. Le cœur des fils de l'homme se remplit en eux du désir de faire le mal. Autrement dit, aussi, une autre façon, c'est l'utilisation erronée de la parole de Dieu dans Matthieu 5, 38, donc mal interprétée. Mais vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. On a Ézéchiel, chapitre 13, verset 22, mal appliqué la parole de Dieu, parce que vous affligez le cœur des justes par des mensonges, quand moi-même je ne l'ai point attristé, et parce que vous fortifiez les mains du méchant pour l'empêcher de quitter sa mauvaise voie et pour le faire vivre. Vous n'aurez plus de vaines visions, et vous ne prononcerez plus d'oracle. Je délivrerai de vos mains mon peuple, et vous saurez que je suis l'Éternel. Autre chose qu'on peut faire, c'est pervertir les Écritures. Jésus leur dit, dans Matthieu 22, 29, « Vous êtes dans l'erreur, parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. » Autre péché qu'on peut faire, c'est tordre les Écritures dans 2 Pierre, chapitre 3, verset 16. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres d'où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affirmées tordent le sens, comme celui des autres Écritures, pour leur propre ruine. Autre péché, face au troisième commandement, la promotion de fausses doctrines. 1 Timothée, chapitre 6, versets 3 à 5 et verset 20. Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil, il ne sait rien et il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons, les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité et croyant que la piété est une source de gain. Ô Timothée, garde le dépôt en évitant les discours vains et profanes et les disputes de la fausse science. 2 Timothée, chapitre 2, verset 14, rappelle ces choses en conjurant devant Dieu qu'on évite les disputes de mots qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui écoutent. Tite, chapitre 3, verset 9, mais évite les discussions folles, les généalogies, les querelles, les disputes relatives à la loi, car elles sont inutiles et vaines. La tolération de l'occultisme, dans Deutéronome, chapitre 18, verset 10 et 11, est aussi un autre péché contre le troisième commandement. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Aussi, une autre forme de péché, la tolération de tout ce qui est non biblique, 2 Timothée, chapitre 4, versets 3 et 4, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Autre forme de péché, l'hypocrisie professante. Matthieu 23, verset 14, « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous dévorez les maisons des veuves et que vous faites pour l'apparence de longues prières. À cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. » 2 Timothée, chapitre 3, verset 5, « Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force, éloigne-toi de ces gens-là, de ces hommes-là. » Aussi, autre péché contre le troisième commandement, la honte de Christ et de ses paroles. Dans Marc 8, verset 38, « Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Et aussi un autre péché contre le troisième commandement, une marche chrétienne déshonorante. Éphésiens chapitre 5, versets 15 à 17. Prenez donc garde de vous conduire avec circonscription, avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Une marche rétrograde est aussi un péché contre le troisième commandement, Galates chapitre 3, versets 1 à 3. Ô Galates dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié? Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Êtes-vous réellement dépourvu de sens? Après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Et on se souvient que dans le troisième commandement, il y a un annexe qui est très important de considérer. Car ça dit, Exode chapitre 20, verset 7b, la deuxième partie, car ça dit, « Car Dieu ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. » Alors, il faut vraiment le prendre au sérieux. C'est Dieu qui parle. La désobéissance au troisième commandement amène une punition divine. Lévitique 19, verset 12, « Vous ne jurerez point faussement par mon nom, car tu profanerais le nom de ton Dieu, je suis l'Éternel. » Quelles sont les punitions, selon les Écritures, qui sont rattachées à la désobéissance au troisième commandement? La maladie, Deutéronome 28, versets 58 et 59, « Si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique toutes les paroles de cette loi, écrites dans ce livre, si tu ne crains pas ce nom glorieux et redoutable de l'Éternel ton Dieu, l'Éternel te frappera miraculeusement, toi et ta postérité, par des plaies grandes et de longue durée, par des maladies graves et opiniâtres, il amènera sur toi toutes les maladies d'Égypte devant lesquelles tu tremblais, et elles s'accumuleront sur toi. » Aussi, le Seigneur dit que manquer au troisième commandement amène le dégoût de soi-même et la honte. Ézéchiel, chapitre 36, versets 31-32. « Alors vous vous souviendrez de votre conduite qui était mauvaise et de vos actions qui n'étaient pas bonnes. Vous vous prendrez vous-même en dégoût à cause de vos iniquités et de vos abominations. Ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte, dit le Seigneur, l'Éternel. Sachez, ayez honte et rougissez de votre conduite, maison d'Israël. » Autre chose, la malédiction, psaume 109, versets 17 à 20, « Il aimait la malédiction qu'elle tombe sur lui. Il ne se plaisait pas à la bénédiction qu'elle s'éloigne de lui, qu'il revête la malédiction comme son vêtement, qu'elle pénètre comme de l'eau dans son intérieur, comme de l'huile dans ses os, qu'elle lui serve de vêtement pour se couvrir, de ceinture dont il soit toujours saint, tel soit de la part de l'Éternel, le salaire de mes ennemis et de ceux qui parlent méchamment de moi. » Le deuil et la course au mal, Jérémie 23, verset 10, « Car le pays est rempli d'adultères, le pays est en deuil à cause de la malédiction, les plaines du désert sont desséchées, ils courent au mal, ils n'ont pas de la force pour l'iniquité. » Proverbe 11, verset 20 et 21. Une abomination devant l'Éternel, ceux qui ont le cœur pervers sont en abomination à l'Éternel, mais ceux dont la voix est intègre lui sont agréables. Certes, le méchant ne restera pas impuni, mais la postérité des justes sera sauvée. Le reniement ou le vol, dans Proverbe 30, versets 8 et 9, éloigne de moi la fausseté, la parole mensongère, ne me donne ni pauvreté ni richesse, accorde-moi le pain qui m'est nécessaire, de peur que dans l'abondance, je ne te renie et ne dise « Qui est l'Éternel ?» ou que dans la pauvreté, je ne dérobe et ne m'attaque au nom de mon Dieu. Ésaïe 14, versets 11 à 15, « L'humiliation, ta magnificence est descendue dans le séjour des morts avec le son de tes luttes. Sous toi est une couche de verre et les vers sont accompagnés. Te voilà tombé, astre du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es tombé à terre, toi le vainqueur des nations. » Tu disais à ton cœur, « Je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assiérai sur la montagne de l'Assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut, mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. » Deutéronome 27, versets 15 à 26, nous parle de toutes sortes de malheurs aussi. « Maudit soit l'homme qui fait une image taillée ou une image en fonte, abomination de l'Éternel, œuvre des mains d'un artisan, et qui la place dans un lieu secret. Et tout le monde répondra et dira « Amen ». Maudit soit celui qui méprise son père et sa mère. Et tout le monde dira « Amen ». Maudit soit celui qui déplace les bornes de son prochain. Et tout le peuple dira « Amen ». Maudit celui qui fait égarer un aveugle dans le chemin. Et tout le peuple dira « Amen ». Maudit soit celui qui porte atteinte aux droits de l'étranger, de l'orphelin et de la veuve. Et tout le peuple dira « Amen ». Maudit soit celui qui couche avec la femme de son père, car il soulève la couverture de son père. Et tout le peuple dira « Amen ». Maudit soit celui qui couche avec une bête quelconque, et tout le peuple dira « Amen ». Maudit soit celui qui couche avec sa sœur, fille de son père ou de sa mère, et tout le peuple dira « Amen ». Maudit soit celui qui couche avec sa belle-mère, et tout le peuple dira « Amen ». Maudit soit celui qui frappe son prochain en secret, et tout le peuple dira « Amen ». Maudit soit celui qui reçoit un présent pour répandre le sang de l'innocent, et tout le peuple dira « Amen ». Maudit soit celui qui n'accomplit point les paroles de cette loi et qui ne les met point en pratique, et tout le peuple dira « Amen ». Alors, les applications qu'on peut faire du texte d'aujourd'hui, que l'Éternel nous sonde pour nous montrer s'il y a quelque trace ou présence de ces péchés en nous, le manque de révérence, l'utilisation abusive de ces noms, titres, attributs et ordonnances. Qu'en est-il aussi du respect de la parole de Dieu et de toutes ses œuvres? Implorons la grâce de se repentir authentiquement. Deuxième application, que le Seigneur nous ouvre les yeux sur la sévérité de sa loi et la profondeur de ses exigences. Nous apprécierons ainsi davantage l'œuvre de notre grand Sauveur Jésus-Christ, qui l'a accompli à notre place, tant dans son aspect punitif que préceptif. Troisièmement, soyons assurés que le Seigneur est fidèle pour accomplir ce qu'il a dit. Prions pour que nous saisissions bien la signification de l'avertissement divin qui nous dit « Car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. » Que la glorieuse personne de Jésus-Christ soit exaltée et louée à tout jamais. Amen. Amen.